France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, gros plan sur un engouement, une passion, une addiction qui ne cesse de progresser, les séries. Record d'audience, excitation maximum avant la diffusion d'une nouvelle saison. Exemple ce soir, début de la diffusion de la saison 2 de La Servante Écarlate sur Internet. Que d'échanges entre téléspectateurs impatients qui décryptent à n'en plus finir la courte bande-annonce énigmatique de la série. Il fut un temps où l'aristocratie, c'était ceux qui faisaient du cinéma et, comment dire, la plèbe, c'était pour la télévision. Et bien c'est fini, les cinéastes confirmés font des séries, les frères Cohen, Scorsese, Steven Soderbergh, Eric Rochant. Les séries font comme le cinéma, avec Cannes ou Venise, elles ont leur festival. Série Mania qui s'ouvre demain à Lille et dont France Inter est partenaire. Une centaine de projections, des compétitions, des prix, des rencontres avec les metteurs en scène, les créateurs, les acteurs. Partout dans le monde, on est de plus en plus dingue de séries. Question sur ce phénomène, appelez-nous, le téléphone sonne, c'est votre émission, 01 45 24 7000 et bien sûr le site franceinter.fr.
Pierre Veil, le téléphone sonne.
Rosanne, dans le Var, est avec nous, bonsoir.
Oui, bonsoir. Alors voilà, ben oui, moi je trouve que non pas que je sois très addict, mais je suis très fidèle et je trouve que les séries sont une sorte de rendez-vous. C'est-à-dire que des fois, si je n'ai pas le moral le matin, je regarde, je dis ah oui super, il y a Nicolas Le Floch ou Cain ou Capitaine Merlot ou Candice Renoir ou Chalet, enfin voilà. Bon, je reste moi dans les séries françaises plutôt parce que il y a toujours un fond, il y a beaucoup moins de violence que dans les autres et j'ai pas besoin de ça et j'ai pas envie. Et en plus, c'était excellemment joué. Il y a de très 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 bons acteurs en général. Oui. Les séries sont deux par deux. Elles sont relativement fidèles dans la suite. Oui, il n'y a pas ces changements comme il y avait avec les séries, certaines séries américaines que je regardais avant. Et là, depuis, je trouve que la France a fait d'énormes progrès sur le choix d'avoir les scénarios. Les comédiens sont excellents et tout, et tout, et tout, voilà. Et moi, c'est un rendez-vous que j'aime beaucoup, voilà. Et je pense qu'on a besoin, tous besoin, maintenant, ce moment, d'avoir cette petite structure de rendez-vous, vous voyez ?
Merci Rosanne pour ce témoignage. Nos invités vont réagir. Éric Rochant qui est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Réalisateur et scénariste, créateur de la série Le Bureau des Légendes. Vous tournez actuellement la saison 4 exact. Du Bureau des Légendes, mais vous êtes aussi metteur en scène de films, des films qui font référence, Möbius, je rappelle, hein, Les Patriotes et aussi Un Monde sans Pitié. Romain Nigita, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste indépendant, spécialiste des séries, co-auteur avec Alain Carazé de Séries Anatomy, le 8e art décrypté, c'est paru aux éditions Fantasque et on vous entend très souvent sur France Inter dans l'émission de la formidable Sonia De Villers, l'instant M. Séverine Barthes, bienvenue.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Sorbonne, spécialiste des séries. Ce premier témoignage de Rosanne qui parle d'un rendez-vous, d'un accompagnement important grâce aux séries, Éric Rochant. Vous pensez quelquefois aux spectateurs, à la façon dont ils vont recevoir les séries, les scénarios ?
Bien sûr, d'ailleurs, c'est écrit comme ça, et c'est la grande différence avec écrire un film et écrire une série, c'est pas la même chose, mais surtout pour ça, c'est qu'on écrit une série sachant que la série épouse le rythme de l'existence et de la vie, et donc en fait on a un rendez-vous, l'idée du rendez-vous régulier, alors c'est vrai que maintenant les séries se consomment de manière extrêmement libre, hein, il n'y a plus le rendez-vous régulier à l'antenne, mais il n'empêche que c'est, même si c'est choisi, c'est-à-dire si la régularité est choisie par les gens qui regardent les séries, il n'empêche que ce rendez-vous régulier est important et on écrit en fonction de ça. Ça permet effectivement d'épouser un autre rythme de narration qui n'est pas celui du cinéma et qui est assez proche finalement du rythme de la vie. C'est aussi pour ça que les personnages, on a une intimité, on a une familiarité avec eux. Et c'est aussi pour ça que le rythme des séries aujourd'hui est calculé de manière extrêmement précise. Le format des séries, la durée des épisodes et le fait d'avoir une série tous les ans, par exemple, est extrêmement important et c'est pas un hasard.
ce courriel qu'on a reçu, une série, c'est comme un gros livre qui vous accompagne pendant des jours, on vit avec les personnages, on a le temps de les scruter, de les découvrir dans toute leur profondeur. C'est la force des séries. Séverine Barthes, c'est ça la force des séries?
Oui, même si en fait, je pense qu'ils nous accompagnent plus longtemps qu'un livre, puisqu'ils nous accompagnent des années. Et c'est rare qu'on mette des années à lire un livre. Et les personnages sont effectivement des compagnons, d'une certaine manière. Et avec ce rendez-vous, cette répétition, le fait que saison après saison, ils évoluent, ils grandissent, de même que nous, nous évoluons et nous grandissons, joue une grande part dans l'affect et l'attachement que nous avons pour ces séries.
On fait de plus en plus de séries, c'est la production intensive maintenant en raison de ce succès. Est-ce que ça risque pas de porter atteinte à la qualité de ces séries, Romain Nigita?
Alors la production explose, mais pas partout malheureusement. Alors en effet, aux États-Unis, depuis ces 10 dernières années, le nombre de saisons inédites a doublé. C'est ce qu'on appelle le peak TV aux États-Unis, un pic de production. On est passé d'environ 250 saisons inédites à quasiment 500 saisons inédites, car énormément de diffuseurs qui avant ne faisaient pas de fiction en font maintenant. Il y a évidemment les nouvelles plateformes type Netflix ou Amazon, mais aussi des chaînes de documentaires comme National Geographic, comme History Channel, qui avant ne faisaient pas de fiction, mais qui maintenant ont besoin de fiction, qui sont des porte-étendards. Et puis, par contre, en France, c'est l'inverse. On pourrait croire qu'il y a une explosion, mais il y a un rapport du CNC annuel, dont la nouvelle édition est tombée hier, il me semble, qui pointe qu'en France, on n'a toujours pas passé le cap des 1000 heures de fiction par an. L'un des gros soucis, c'est qu'il y a une vingtaine de nouvelles chaînes en France depuis une dizaine d'années, les chaînes de la TNT, et elles ne produisent aucune fiction. On a quasiment triplé le nombre de chaînes en France, il n'y a pas de nouvelles séries.
On va aller au standard. Frédéric, dans les Yvelines. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Pervel.
C'est à vous, vous êtes sur l'antenne, nos invités vous écoutent.
Moi je suis accro, je regarde surtout les séries en DVD, et je suis accro aux séries spectaculaires comme Game of Thrones, Black Sails, qui est une série avec des pirates, qui est un préquel à L'île au trésor, Ellen Wills, une série western, Viking, Spartacus.
Mais Frédéric, expliquez-nous pourquoi êtes-vous accro, qu'est-ce qui vous plaît? Si on compare avec le film traditionnel, on va au cinéma, 2h30 de projection.
C'est vrai que c'est pas très nouveau, parce qu'il y avait déjà les Mystères de Paris avant, dans le roman feuilleton. C'est vrai qu'il y a toujours un cliffhanger ou la suite au prochain numéro. Et c'est vrai que quand je commence un DVD, j'arrête, fais premier épisode, deuxième épisode, je me dis j'arrête au troisième épisode. Et c'est vrai qu'après, c'est vrai que c'est dur de pas continuer. Mais c'est vrai que c'est très bien fait, et même au niveau spectaculaire, des fois, sur mon petit écran, des fois quand je regarde les séries, les images maritimes de Black Sails, je me dis, sur grand écran, que ce soit bien donné, même dans Game of Thrones, les séries de les scènes avec les batailles, et je me dis, sur un écran géant, ça va être fantastique.
Merci Frédéric. Le cliffhanger, il en parlait Frédéric à l'instant, si on traduit, c'est le suspense. Éric Rochant, ça se travaille, la fin d'un épisode pour que le spectateur... ait envie de voir la suite. C'est un moment très important que vous travaillez quand vous écrivez les séries, le Bureau des Légendes.
Alors bien sûr, la fin d'un épisode est importante. Alors d'ailleurs, chaque épisode n'a pas la même importance. L'épisode 1, évidemment, la fin de l'épisode 1 doit donner envie de regarder l'épisode 2. L'épisode 5, il y a peut-être moins d'enjeux à ce niveau-là. Donc les cliffhangers, on les saupoudre à des moments stratégiques. Mais en fait, l'addiction aux séries ne dépend pas toujours de cliffhanger. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux raisons d'être addict à une série. La première, c'est toujours l'écriture. L'écriture est faite pour ça. L'écriture est faite pour que les gens aient envie d'y aller. Donc des fois, l'écriture est mécanique, c'est-à-dire effectivement, on fait un cliffhanger, c'est-à-dire on termine un épisode sur un moment de suspense ouvert et dont la réponse est promise pour l'épisode suivant. Ça, c'est le cliffhanger. Mais l'addiction ne fonctionne pas obligatoirement là-dessus. L'addiction fonctionne aussi sur le fait d'avoir plaisir à fréquenter soit un univers, soit des personnages, soit même une histoire. Et il y a plein de séries auxquelles on peut être extrêmement addict, qui n'ont pas de narration à suspense ou à cliffhanger. C'est juste qu'on a envie, on est content de les retrouver. Et là, la durée de l'épisode est importante, car elle est un peu frustrante, obligatoirement. C'est fait exprès. C'est-à-dire que les épisodes de 3 heures ne fonctionneraient pas de la même manière. Les épisodes les plus longs aujourd'hui font 1 heure, aux États-Unis c'est à peu près 1 heure, et 1 heure de fiction, si la fiction est très forte, si elle est très émotionnelle, 1 heure de fiction donne envie, quoi qu'il arrive, de continuer et de retrouver l'histoire et les personnages.
Cyril à Angers, bonsoir Cyril, merci d'être avec nous.
Bonsoir Pierre Veil, très heureux de vous parler personnellement. Et bonsoir à tous et à toutes.
On vous écoute.
Oui, je vous appelle concernant le modèle Netflix, à savoir en fait la mise en ligne de 10 à 13 épisodes pour chaque saison ou pour chaque série, ce qui a lieu une fois par semaine à peu près. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un essoufflement de la part de ce modèle, à savoir est-ce qu'on vient pas, les sériebores ou les sériephiles, vers un modèle un peu plus old school, à savoir l'épisode par semaine avec le cliffhanger? Ce qui revient de plus en plus actuellement, j'ai remarqué par exemple pour une série comme Rise ou comme Here and Now, qui passait récemment sur HBO, est-ce qu'on ne vient pas finalement à quelque chose de une forme de patience, d'attente de semaine en semaine, parce que le modèle Netflix, personnellement, même si on a le choix, on peut très bien arrêter une série et reprendre au bout du troisième épisode. Oui. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu fatigué de ce modèle-là, de binge-watching, ça veut tout dire, le binge-watching?
Réponse de Séverine Barthes, qui est maître de conférence, je le rappelle, à l'Université de Paris-Sorbonne et spécialiste des séries. Elle a beaucoup écrit et étudié à ce propos.
Oui, le modèle Netflix, en fait, répond à quelque chose d'économique. C'est-à-dire que Netflix, pour se distinguer de la télévision normale, si je puis dire, ou traditionnelle, a mis en place ce procédé qui lui-même s'inscrit sur d'autres choses, qui est la consommation en DVD que pointait un auditeur, mais aussi les rediffusions. Beaucoup de chaînes de câble, par exemple aux États-Unis, ou de chaînes locales, font comme ça 4, 5, 6 épisodes en rediffusion toute la journée. Ce modèle du cliffhanger et de l'épisode une fois par semaine, etc., n'avait jamais disparu. En France, on a peut-être été moins sensible parce qu'en fait, nos séries françaises, chez nous, ne sont pas diffusées ainsi. Les séries américaines qu'on importe ne sont pas diffusées à raison d'un épisode par semaine, mais par exemple TF1 ou France 2 en mettent 2 ou 3 à la suite, éventuellement ensuite en mettre 2 autres de saisons précédentes, etc. Et donc on a cette idée, cette image du binge-watching en France très présente, alors qu'elle ne correspond pas forcément à une réalité de production en tant que telle.
Beaucoup de courriels, des questions pour Éric Rochant, qui tourne actuellement la 4e saison du Bureau des Légendes. On vous présente comme un showrunner, une sorte de super chef d'orchestre, et on vous demande, mais comment travaillez-vous? Est-ce que vous dirigez un énorme staff de plusieurs dizaines de personnes? Comment ça se passe?
Alors oui, mais c'était très hiérarchisé, c'est-à-dire que je n'ai pas affaire directement à tous les membres de l'équipe, mais c'est vrai qu'en ce moment, par exemple, bon là je viens du tournage de français, mais en ce moment il y a 2 équipes qui tournent en simultané, une en Ukraine, une en France, et donc il y a 2 tournages, et je dois suivre les 2 tournages, c'est-à-dire regarder les rushs tous les jours, répondre aux questions du tournage Ukraine qui a toujours des questions à poser. Moi-même, en ce moment, je réalise moi-même, ce qui n'est pas toujours le cas, mais là je réalise moi-même un épisode en France, donc c'est un gros bateau à mener, et en fait il se mène avec une équipe extrêmement non seulement hiérarchisée mais très organisée, hein. Chaque département est géré par un chef de département, et moi finalement je délègue un certain nombre de choses, donc voilà, il y a une idée du chef d'orchestre, ça c'est sûr, mais chef d'orchestre, il y a un orchestre,
hein. Et le scénario, l'histoire, lorsqu'elle est vous l'écrivez avec là aussi de nombreux conseillers autour de vous?
De conseillers non, des scénaristes oui, on a une équipe dans ce qu'on appelle la writer's room, c'est-à-dire la salle d'écriture. On écrit à plusieurs, car en fait produire une saison par an, c'est-à-dire 10 épisodes de 52 minutes, hein, ça fait à peu près 9 heures, c'est en gros presque un film de 9 heures chaque année. Eh bien, il faut enchaîner les moments, enchaîner les mouvements, et on ne peut pas faire ça tout seul. Donc on délègue, on a une équipe, et c'est vrai que on dirige tous les gens qui apportent, qui ont leur apport artistique.
Romain Nigita, c'est le système américain que pratique Éric Rochant. Il s'est inspiré de l'organisation américaine pour faire des séries.
C'est vrai que c'est un système qui a fait florès aux États-Unis, d'abord dans les séries de comédie à partir des années 50-60 et dans les séries dramatiques à partir des années 80. Et c'est vrai que la France a mis beaucoup de temps à arriver à ce système. L'une des premières séries à l'avoir fait, c'était PJ au milieu des années 90. Une série qui avait été créée par Frédéric Krivine, qui ensuite a appliqué le même modèle sur Un village français. Donc quand même des très grandes réussites de la télé française de ces 20 dernières années. Donc on peut se dire quand même que ce modèle fonctionne. Ça n'est pas le seul, bien évidemment, mais c'est vrai que, comme le disait Éric Rochant, pour que les téléspectateurs aient envie de suivre une série, il faut qu'il y ait une saison chaque année. Et pour avoir une saison chaque année, il faut ce travail collectif. Sinon, on se retrouve avec des séries pour lesquelles on attend 3 à 4 ans entre deux saisons. Des fois, même les acteurs s'en vont. C'est ce qui est arrivé sur des séries qui avaient bien marché en saison 1, comme Clara Scheller sur France 2. Tous les acteurs sont partis entre les deux saisons, bah, les téléspectateurs aussi. C'est le problème qu'on a aussi sur les revenants, sur Canal+. Là, les acteurs sont restés, mais il y a eu 3 ans entre les deux premières saisons. La première était un très beau succès, la deuxième, pas du tout.
Jean-Yves à Grenoble, bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir.
Allez-y, vous êtes en direct. Bienvenue.
Alors moi, je vais un peu à contresens de tout ce qui est dit jusqu'à maintenant. Hein.
Ah oui, pourquoi ?
Oui, parce que moi, je supporte plus les séries.
Ah bon ?
Oh non.
Mais pourquoi ?
Ah ben non, parce que début des années 80, je venais de me marier. Avant, on allait en boîte, on sortait, on allait danser. Je venais de me marier tout jeune, est apparu Dallas. Boum, ma femme commence à regarder Dallas. C'était le samedi soir à l'époque. Donc tous les samedis, il fallait se payer Dallas. Donc on sortait plus, on n'allait plus en boîte. On se retrouvait en robe de chambre à 25 ans à regarder Dallas. J'ai dit, mais c'est pas vrai, mais on n'est pas retraité encore. On a quel âge ? Après, Dallas, j'en avais marre, Dallas. Dallas termine, paf, Dynasty attaque. Rebelote tous les samedis, Dynasty. J'ai dit, non, mais c'est pas possible. Les séries, mais les gens deviennent accros, ils regardent que ça. Maintenant, vous voulez inviter quelqu'un à dîner dans la semaine ? Ah oh ben non, ce soir, il y a telle émission, il y a tel feuilleton. Ah ben moi, je regarde tel feuilleton, je suis accro à ça. Non, mais c'est de la folie, quoi. Les gens deviennent fous avec les séries. Je trouve que c'est un peu trop, quoi, quand même. Bon, maintenant, ça a quand même changé, parce qu'il y a le replay. Donc, on peut le voir en replay. Bon, moi, je le regarde pas, mais ma copine, en ce moment, elle a peut-être 7, 8, 10 épisodes de séries à regarder en replay qu'elle a en retard. Tous les soirs, je rentre à la maison, elle est en train de regarder un machin en replay, un feuilleton en replay. Donc, ça bloque bien la vie, quoi.
Je vous comprends. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, Jean-Yves. Voilà. Merci de nous avoir appelé, Séverine Barthes. Ce témoignage, oui, c'est comme une sorte de drogue, hein, quand on est vraiment accro aux séries. On commence, on a du mal à s'arrêter.
Oui, après, je ne sais pas si on peut vraiment parler de drogue. Cependant, on retrouve ici cette notion de rendez-vous qui avait été évoquée tout à l'heure. C'est-à-dire que cette personne raconte, c'est comment... le rendez-vous semaine après semaine avec une série, et qu'aujourd'hui on a tendance à avoir une réception plus individualisée des différentes séries. Alors ça avait commencé déjà dans les années 80 avec le magnétoscope, je parle d'antiquité, mais ça avait commencé à donner de la liberté dans l'appropriation personnelle des séries, des fictions, des programmes. Aujourd'hui, on est à l'extrême avec le replay, avec Netflix ou Amazon qui donne tous les épisodes, qui la donne à disposition. Tous les épisodes, il y a quand même quelque chose qu'il ne faut peut-être pas oublier, c'est aussi cette fonction sociale des séries, et c'est-à-dire que la série qu'on voit qui fait événement, le Bureau des Légendes par exemple, il y a les discussions le lendemain, le fait de suivre la diffusion et la réception semaine après semaine, joue aussi un rôle dans cette espèce de communication sociale que nous avons avec nos contemporains.
Oui, on parlait d'addiction et de communication sociale, que de messages, que d'échanges sur Internet, par exemple, à propos de cette saison 4 du Bureau des Légendes que vous tournez actuellement, Éric Rochant. Alors, Mathieu Amalric fait partie maintenant des acteurs. Quel sera son rôle? Qu'est-ce qui va se passer? Ça crée une attente et une discussion permanente autour de ces séries.
Mais ce qui est sûr, c'est que la série est un mode de narration qui s'est adapté au nouveau mode de consommation de la narration et du récit. Parce que effectivement, si on en était resté au rendez-vous régulier, dépendant de la diffusion des chaînes, je pense que il n'y aurait pas eu cette explosion. Cette explosion a été effectivement favorisée par le DVD, par la diffusion d'un coup par le binge watching, parce qu'en fait le binge watching existe depuis toujours. Moi je pense que je vois plus de séries en choisissant ma propre régularité, parce que j'achète des DVD où je regarde des séries qui sont déjà diffusées, et à ce moment-là je les regarde comme je veux. J'en peux regarder deux dans une soirée, ou un par semaine, ou un tous les mois. C'est un choix, mais cette liberté en fait de consommation de la narration, c'est ça qui favorise l'essor des séries, parce que les gens aujourd'hui n'ont plus envie qu'on leur dicte ce rendez-vous. Ils ont envie d'être libres de leur rendez-vous. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que l'addiction, parce qu'il peut y avoir une addiction, l'addiction est assez libre au bout du compte, hein. Donc la série bénéficie de ce nouveau mode de narration.
Albert à Paris, bonsoir.
Alberto, oui.
Alberto, pardon.
Non, c'est pas grave. Donc, moi, je voulais parler de différentes séries. Donc, alors, par contre, pour le Bureau des légendes, il y avait quelqu'un qui était passé sur France Inter qui disait que... C'est un ancien de la DGSE qui disait que c'était pas tout à fait ça, c'est-à-dire qu'il y avait des soucis de... C'était pas aussi techno que ça, la DGSE, l'ascenseur fonctionnait pas, enfin bon, voilà. Autrement, pour en revenir aux séries, il y a pas seulement l'argent qui entre en jeu, il y a aussi la qualité des scénarios comme dans La Servante écarlate, oui. qui est vraiment excellente, parce que, comme je disais aux personnes que j'ai eues au téléphone, c'est la qualité des images aussi, qui sont vraiment des peintures, qui sont vraiment des peintures flamandes, quoi. C'est vraiment magnifique, les clairs obscurs, tout ça, c'est vraiment très beau. On sent l'angoisse, on sent l'étouffement, on sent beaucoup de choses. C'est vraiment excellent.
Merci Alberto. La ligne n'est pas très très bonne. On a compris votre témoignage, Romain Nigita. Alberto faisait allusion au fait que les images dans ces séries sont de plus en plus soignées. C'est du grand art là maintenant.
Alors moi j'ai envie de dire que ça a toujours été du grand art. C'est vrai que maintenant le fait qu'on ait des écrans de plus en plus grands et en plus en haute définition nécessite d'aller toujours plus loin. Mais on a toujours eu un grand soin dans l'image, surtout dans les séries américaines qui ont toujours été tournées sur pellicule. On s'en rendait pas forcément compte à la télé française, mais depuis les années 50, les séries américaines étaient tournées avec le même matériel que les films, donc la pellicule 35 mm. Des grands cinéastes dès les années 50 s'intéressaient à la télé. Alfred Hitchcock a fait des séries dans les années 50. Alfred Hitchcock présente, par exemple, il a réalisé certains épisodes, une quinzaine. Walt Disney lui-même a produit des séries, on connaît bien sûr Zorro. Pourquoi est-ce que Zorro est intemporel et repasse encore aujourd'hui? Parce que c'était produit comme les films de l'époque, avec un très grand soin apporté à l'image. Alors c'est vrai que maintenant, on a des séries qui sont produites notamment pour le câble aux États-Unis ou pour des plateformes spécifiques. C'est le cas de La Servante écarlate qui est produite pour la plateforme Hulu aux États-Unis, qui mettent peut-être un peu plus d'argent que les séries des grandes chaînes, que des séries policières un peu ordinaires type NCIS. Mais attention, c'est pas celle-là. Sinon, c'est pas Servante écarlate ou Game of Thrones qui font plus d'audience aux États-Unis. Ça reste des séries très banales, mais plaisantes à voir, comme NCIS, comme Esprit criminel ou des sitcoms. C'est ça qui fonctionne aux États-Unis. En France, on se dit, tiens, voilà, Servante écarlate, ça cartonne. Bah, en fait, non. C'est très bien. C'est une très belle série, ouais. Mais c'est pas ça que regardent la plupart des Américains.
Éric Rochant, vous travaillez autant la qualité de l'image, de la prise de vue, lorsque vous faites une série ou lorsque vous faisiez Möbius ou Les Patriotes ?
Alors je travaille autant, j'ai autant de soucis de la qualité, mais c'est pas du tout la même chose. Hein. Il faut savoir qu'une série, enfin la production d'une série, le tournage d'une série évidemment se fait trois fois plus vite, oui, qu'un film, puisqu'on a à peu près 11 jours pour faire 52 minutes, 11 à 12 jours pour un film, on a beaucoup plus. Donc c'est sûr que on doit faire des choix, on doit être extrêmement ergonome dans la façon de produire, dans la façon de tourner. Ça, en fait, ça crée des techniques, ça fait inventer des astuces. Donc il y a une très grande créativité dans la série, mais il est absolument sûr que ça n'est pas du tout la même chose que de faire un film. On a plus de temps pour faire un film, on a plus d'argent. Le temps étant de l'argent, de toute façon, avoir plus de temps, c'est avoir plus d'argent. La série, je pense que la série repose principalement sur l'écriture et les acteurs. Ça, c'est les deux piliers absolument fondamentaux d'une série. Si l'écriture est bonne, si elle a été soignée, si tout le paquet, même le paquet financier a été mis sur l'écriture et sur les acteurs, à ce moment-là, la série sera probablement réussie. Ensuite, je pense que la mise en scène et la qualité de l'image viendra comme une cerise sur le gâteau, comme un écrin, soigner l'écrin. Mais le bijou, c'est l'écriture et les acteurs.
Alberto parlait du Bureau des légendes qui raconte le fonctionnement de la DGSE. Il disait, bon, c'est peut-être pas tout à fait exactement comme ça que ça se passe dans la réalité, mais est-ce qu'une série peut être un véritable documentaire, un reportage dans le réel? Moi, je pense à Gomorra, hein, la mafia napolitaine, ou encore The Wire, sur écoute, ouais. C'était la violence urbaine à Baltimore et Crochant.
Là, c'est les grandes. Là, on parle des grandes séries, parce qu'en fait, là, on parle de la série. C'est la série d'auteur et la série mainstream. C'est la série des chaînes câblées qui peuvent effectivement miser sur la singularité, sur l'originalité, quitte à prendre vraiment des très gros risques. Et la série, ce qu'on appelle la la série Network, qui est la série faite pour plaire au plus grand monde, au plus grand nombre. Je pense que la série d'auteurs, c'est la série des chaînes câblées comme Canal+ ou comme HBO aux États-Unis, c'est des séries effectivement qui se permettent de faire découvrir des nouveaux univers aux gens. Et c'est vrai que la série est très bien adaptée. L'écriture de la série est extrêmement bien adaptée à la description de nouveaux univers comme la justice, comme la police, comme un hôpital, comme les pompiers de New York dans Rescue Me, comme effectivement la ville de Baltimore dans The Wire, comme la mafia du New Jersey dans Les Sopranos. Voilà, c'est adapté à la description d'un monde.
Séverine Barthes.
Oui, il faut pas forcément opposer aussi systématiquement la série télé d'un côté et le documentaire de l'autre. En fait, ce sont deux moyens d'écriture différents de parler de la réalité. Et donc, on mettra en œuvre des dispositifs différents, des modalités d'écriture différentes, de tournage, etc. Mais effectivement, la série a cette possibilité de parler du monde et du réel, et notamment, je pense, et je réinsiste dessus, parce qu'elle se déploie dans le temps et que donc elle permet cette ampleur de la description.
Un appel d'auditeur dans l'Isère, je ne lis pas bien le prénom, alors c'est Jean-Claude, c'est cela ?
Oui, c'est ça.
Ah bah bravo. Jean-Claude, bah, bienvenue, bienvenue sur l'antenne.
Bonsoir. Alors moi je voulais parler des séries parce que je suis un grand fan, je suis un cinéphile d'abord, et pour moi les séries, c'est des films qui duraient 6 ou 7 heures. J'ai adoré les séries comme Fargo, qui sont des ressuscés des Cohen sur l'histoire des crimes dans le Montana. J'ai adoré Breaking Bad, Rome, éventuellement, oui, Game of Thrones, mais pour moi, c'est du cinéma qui dure des heures, et d'année en année, les séries ont dépassé ou égalisé, ou l'un ou l'autre, je sais pas, le cinéma. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, de quelle façon ?
Dans la technique, dans les images, dans les acteurs qui sont toujours formidables. Vous prenez Rome, c'est un chef-d'œuvre. Deadwood, la série Deadwood qui se passe dans les Black Hills sur la rue et vers l'or. Mais ouais. C'est des chefs-d'œuvre. C'est quand même, je crois que c'est Arthur Hill qui a fait ça. Vous voyez, c'est pour moi ça dépasse le cinéma évidemment, mais ce bonheur de voir. Cette qualité cinématographique qui dure des heures, quoi. Bon, ouais. J'aime bien quand ça s'arrête, comme pour moi, je suis un grand fan de Fargo, la saison 1 et 2 de Fargo, mais c'est énorme. Et avec des acteurs toujours... d'ailleurs, je suis étonné qu'en France, les acteurs, ils viennent un peu, mais il y a toujours ce truc télé et puis cinéma. Alors qu'aux États-Unis, ça n'existe pas, quoi. On joue dans un... On a un bon scénario, on a une bonne histoire, on a un bon réalisateur, on fait des chefs-d'œuvre. Que ce soit de la télé ou du cinéma, les Américains s'en foutent. Alors qu'en France, il y a ce petit machin qui fait, vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, oui. Merci Jean-Claude. On va réagir à votre constat, Romain Anigita. Est-ce qu'on peut dire que, tout doucement, les séries peuvent faire du tort au cinéma ? Je crois qu'aux États-Unis, il y a une baisse de fréquentation dans les salles de cinéma avec le développement des séries.
Alors, ce dont on se rend compte en rencontrant pas mal de professionnels américains, que ce soit des scénaristes, des producteurs ou même des acteurs, ils vous disent eux-mêmes que aujourd'hui, ils trouvent des projets intéressants non plus au cinéma, mais à la télé. Donc, c'est pas uniquement parce que la télé fait des choses intéressantes, c'est aussi parce que le cinéma en fait de moins en moins. En fait, l'esprit du cinéma des années 70, l'esprit des films de Scorsese, de Palma, etc., aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve à la télé sur les chaînes câblées, et on n'a plus ces films-là qui prennent des risques aux États-Unis. Aux États-Unis, maintenant, on a beaucoup de plus en plus, c'est quasiment que les blockbusters, les films de super-héros, dont certains sont très bien. Je les blâme pas du tout. J'ai vu Avengers hier soir. Il y a des petits films, indépendants, les films qu'on trouve dans les festivals de Sundance, mais il y a plus ces films du milieu. Il y a plus l'équivalent de Raging Bull ou de Bonnie and Clyde. Bah, ces projets-là, c'est ce qu'on trouve maintenant à la télé, et les professionnels américains sont ravis de pouvoir faire ça à la télé, que ce soit les acteurs ou les scénaristes. Donc il n'y a pas forcément une opposition entre les deux. C'est juste que ces sujets-là, un peu risqués, se sont déplacés d'un support à un autre.
Éric Rochand, les salles de cinéma n'ont pas à s'inquiéter du développement des séries ?
Alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'on a toujours pensé que le cinéma allait succomber sous les coups de la vidéo, de la télé, de la vidéo, des DVD, etc. Bon, le cinéma se porte vraiment pas mal. Je pense que même en France, les fréquentations sont bonnes. Donc, c'est pas le problème. le cinéma n'a pas à s'inquiéter de la série. En revanche, on a à s'inquiéter de là où se trouve la créativité. Moi, j'ai été vraiment intéressé de faire la série parce que j'ai trouvé qu'il y avait une innovation créative dans la série qu'il n'y avait plus dans le cinéma ou beaucoup moins. L'innovation créative, elle est dans la série. Pourquoi ? Parce que la série est un nouveau format de narration encore. Et là, on a tout à inventer. On a tout à inventer. Et non seulement ça, mais en plus, c'est vrai que les diffuseurs, donc d'une certaine manière les producteurs, prennent des risques. Pourquoi HBO a aussi bien marché à un moment donné ? Parce que pour se démarquer de la télé d'une part et du cinéma d'autre part, ils ont misé sur l'originalité. Et non seulement ça, ils ont misé aussi sur la singularité des auteurs. Le cinéma d'auteur a finalement est de nouveau né à travers la série. La série d'auteur a pris le relais du cinéma d'auteur. C'est là qu'on invente les choses, c'est là qu'on prend des risques. Et en fait, quand je parle de risque de créativité, la série a permis jusqu'à maintenant de faire des choses que jamais le cinéma n'a permis. D'avoir des intrigues si ténues comme dans Mad Men par exemple, des personnages qui reposent sur des toutes petites choses parce qu'on a le temps effectivement de les développer, le cinéma ne le permet pas et ne le permet plus. Donc voilà, il y a une créativité et c'est pour ça que les auteurs aujourd'hui, effectivement, les auteurs viennent à la série parce que c'est là qu'ils peuvent s'exprimer.
Brigitte dans le Val-de-Marne, bonsoir Brigitte.
Bonsoir. Mais moi, je voulais apporter un témoignage parce que, au départ, je suis une cinéphile, une passionnée de cinéma. J'ai fait des études cinématographiques et les séries ne m'intéressaient pas du tout. J'étais passée devant Dallas, mais Dallas ne m'avait pas intéressée. Et puis, par le biais de ma fille, qui est une jeune adulte, elle m'avait conseillé de voir une première série qui est, la première que j'ai vue, c'était Braco. Alors, il se trouve que j'aime beaucoup aussi Olivier Marchal, donc ça a contribué. Et j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas, le plaisir de ce temps, j'entendais l'émission, et de ce temps où les personnages peuvent évoluer. Et puis ensuite, par curiosité, j'ai continué, mafieuse. Alors, je regarde que des séries françaises, je regarde surtout des séries qui sont sur Canal+, mafieuse. J'ai entendu un matin sur France Inter, la scénariste d'Engrenage. Ça m'a donné envie de voir et du coup j'ai dévoré aussi Engrenage et je suis particulièrement contente parce que j'ai entendu qu'il s'agissait d'Éric Rochon et je suis ravie d'avoir entendu qu'en plus il était en tournage de la prochaine de la suite du Bureau des Légendes que j'ai absolument adoré. Je voulais vraiment en profiter pour le féliciter parce que la façon dont le récit se développe, dont les personnages prennent de l'épaisseur, enfin vraiment j'ai été passionnée par cette série. Donc voilà, c'était juste un témoignage pour dire qu'on pouvait adorer le cinéma et prendre aussi beaucoup de plaisir. Alors peut-être de l'addiction aussi aux séries, parce que comme quand on referme un livre qu'on a beaucoup aimé, on est assez triste quand ça s'arrête parce qu'on a envie de retrouver ces personnages.
C'est ce qu'on disait dans un courriel que je lisais au début de l'émission. Merci Brigitte, le Bureau des Légendes d'Éric Rochon a été vendu, corrigez-moi si j'ai une bêtise, Romain Nigita, dans 70 pays. Comment expliquer ça ? Parce que le Bureau des Légendes, c'est un sujet quand même très, très français, franco-français, le fonctionnement de la DGSE.
C'est le fonctionnement de l'espionnage. L'espionnage, c'est universel, finalement. Le fait que, comme l'a très bien dit Éric Rochon, ils arrivent à faire une saison par an, ça fait un volume suffisant pour être vendu et diffusé à l'étranger. Ça paraît totalement idiot comme ça, mais une chaîne étrangère ne va jamais acheter une saison de 8 ou 10 épisodes. Il lui faut un volume suffisant pour occuper son antenne. C'est aussi pour ça que dans les années 80-90, quand la télé française ne faisait que des collections de téléfilms, les Navarro, Julie Lescaut, au-delà de la qualité, on peut en penser ce qu'on veut, mais il n'y avait pas des volumes suffisants pour être vendus et pour créer justement ce fameux rendez-vous. Et il faut se créer ce rendez-vous et c'est pour ça que maintenant, de plus en plus de séries françaises sont achetées et diffusées à l'étranger et Les Revenants ont été diffusés aux États-Unis par exemple.
Séverine Barthes, un complément à ce que vient de dire Romain Nigita, non ? Non. Alors, on va au standard et pas de problème. Voici Dominique à Mont-de-Marsan, si je lis bien l'ordinateur, c'est ça, Dominique ?
Oui, bonsoir Monsieur Veil.
Bonsoir Dominique. C'est à vous, vous êtes sur l'antenne.
Eh bien, alors moi j'appelais, c'est un petit peu anecdotique, mais je regarde quelques séries, mais il y a quelques années, on a entendu parler de la série Mafiosa, avec mon épouse, et alors ça nous a interpellés, parce qu'il se trouve qu'on s'est rencontrés en Corse, il y a un petit moment déjà. Et donc au départ, on a regardé cette série vraiment à cause de ça, quoi, pour retrouver l'atmosphère de la Corse, les paysages, l'accent, tout ça. Et puis on s'est pris au jeu et donc on a regardé cette série tous les ans. On regarde les rediffusions quand ça passe. Mais le point de départ, enfin, c'est vraiment ça, quoi. C'est un truc. Ça nous a rappelé des souvenirs et donc on s'est mis à regarder cette série à cause de ça.
Éric Rochant, à ce propos, là, quand vous entendez Dominique, qui dit voilà, ben, moi on regarde, ça nous rappelle des paysages, des souvenirs.
D'abord, je voudrais remercier l'auditrice qui m'a fait tellement de compliments. C'était assez très agréable. Je vous remercie. Les séries, c'est de toute façon. On va visiter les univers qui nous sont proposés. C'est vrai que Mafiosa parlait de la Corse, parlait des bandits corses. Ce qui est intéressant, vraiment, encore une fois, le format d'écriture de la série, c'est qu'il y a une gestion du temps qu'il n'y a nulle part ailleurs. Cette gestion du temps permet de fouiller les personnages. Les scénaristes aiment écrire des séries. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le temps de développer leurs personnages. Et développer les personnages, ça veut dire les approfondir. Ça veut dire qu'on peut faire une saison entière sur un personnage qui a une certaine couleur, et la saison d'après, comme dans la vie, le personnage va changer de couleur uniquement parce qu'il a vieilli d'un an, ou parce qu'il est confronté à des nouvelles aventures. On confronte un personnage à l'amour, et ensuite on le confronte à la rupture. C'est tout à fait différent. On peut développer des choses dans le temps, et c'est ce qui fait vraiment c'est ce qui fait l'intérêt, je crois, des grandes séries.
Mais alors ça veut dire que vous ne ferez plus jamais de films ?
Bien sûr que si, je ferai des films, parce qu'en fait c'est deux formats différents. Ouais. On ne peut pas les opposer. Moi je pense pas qu'une série ça soit un long film, ça n'a rien à voir. Ouais. Mais, et comme on ne peut pas les opposer, effectivement, on peut passer de la série au cinéma, c'est deux univers narratifs et deux univers de production différents.
Séverine Barthes.
Ce que souligne votre auditeur, c'est que la matière première d'une série télévisée, c'est l'émotion du téléspectateur. Et donc, c'est sur cette émotion, d'une certaine manière, alors la frustrée par le cliffhanger, jouer dedans ou en dehors en fonction de l'évolution des personnages, etc. Mais que c'est quelque chose de très humain, d'une certaine manière, regarder une série télévisée.
Annabelle à Paris. Bonsoir Annabelle.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Écoutez, je voulais d'ailleurs rebondir sur ce que vous venez de dire, madame, en parlant des novellas brésiliennes, qui sont à mon sens un peu un mythe fondateur des séries, et qui ont un rôle social au Brésil et dans d'autres pays également, où il va y avoir ce pouvoir d'identification dans une série, où vous allez avoir deux mondes qui vont s'opposer, se côtoyer, s'intermêler, qui est le monde des ultra-riches avec le monde des pauvres. Et il y a une fonction sociale dans les novellas brésiliennes qui est extrêmement importante, puisque cela permet aux plus démunis de pouvoir rêver en regardant ce monde de nantis, et également de pouvoir s'identifier aux personnages beaucoup plus humbles qui luttent au quotidien et qui vivent en marge. Et donc ça m'interpelle beaucoup également, parce que je repense à certains souvenirs d'enfance en Europe du Sud où tout le monde à 19h va voir la novella. Ouais. Les rues se vident littéralement, et c'est un moment entre femmes aussi où vous avez les grands-mères, les tantes, les cousines, les petites filles, tout le monde regarde et ensuite tout le monde commente. Et
merci Annabelle. Merci de nous avoir appelé, d'avoir témoigné, Romain Nigita.
Oui, c'est vrai que ce que le témoignage de votre auditrice, ça rappelle justement cette fonction sociale de la télé, où le lendemain, au bureau ou à l'école, on va parler de ce qu'on a vu la veille. Et c'est en effet quelque chose qu'on perd un peu avec les plateformes de binge type Netflix. On peut pas avoir ça, parce que tous les épisodes d'un coup, c'est-à-dire que personne ne regarde au même rythme. Donc on va pas se raconter ce qui s'est passé, parce qu'on n'a pas forcément vu tous les mêmes épisodes. Donc on perd un peu cette fonction-là, notamment sur les réseaux sociaux, qu'on retrouve par contre avec la diffusion classique de grandes séries type Game of Thrones, Walking Dead, où tout le monde pendant la semaine jusqu'à l'épisode suivant va dire ah là t'as vu la fin de l'épisode. Finalement cette diffusion classique a encore un avantage.
Merci à nos invités ce soir. Au téléphone sonne Éric Rochant, Romain Nigita et Séverine Barthes. C'était le téléphone sonne. À demain.